Bonjour à tous, ça va?
Oui.
C'est bien, gloire à Dieu. C'est bien, c'est bien. C'est le dernier dimanche qu'on passe sans avoir le papa de Robert avec, de Stéphane avec nous, le frère Robert, parce que dès mercredi, il emménage dans la chambre que les frères ont préparée derrière, qui est absolument magnifique. On est très contents. On est aussi très contents parce que ça y est, on a reçu l'autorisation pour construire notre... Alors c'est super, c'est magnifique. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Vous savez, nous tous qui sommes là, on vient de loin, quoi. Je veux dire, on était des... Moi j'étais un fils d'ouvrier tout simple, et vous aussi, on a été comblés, vraiment comblés par le Seigneur. Amen.
Oui.
Vraiment comblés par la foi de Christ en nous. On croit, et c'est pas seulement les choses matérielles, si c'était que ça, ce serait. Parce que, bon, mais c'est point de vue de l'esprit, point de vue de notre tournure d'esprit, point de vue de notre comportement, toutes ces choses sont devenues différentes. Et le matériel doit marcher avec. Hein. Dieu veut nous combler en tout point, en toute chose. Comme prospère l'état de notre âme. C'est écrit cela aussi. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est vrai. Et c'est aussi écrit. Amen. Et nous sommes contents. Alors, ce matin, je vais vous lire un texte dans la... Vous savez, les Juifs, ils lisent avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un doigt. Et puis alors, ils lisent comme ça, afin de ne pas toucher les Écritures, parce que c'est sacré. Alors voilà, j'en avais reçu un, je m'en rappelle plus, il y a longtemps. Alors, je voudrais vous lire dans 1 Jean 4, 17, et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent prêché. Tel qu'il est, donc tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Alors, beaucoup de chrétiens ignorent ça. Ils le lisent, ne font pas attention à ça. Nous voilà à la sixième prédication concernant le salut complet en Jésus-Christ. J'ai voulu commencer cette année avec cette prédication parce que je veux que ça soit clair au début de l'année, que la saine doctrine de base soit bien nette, claire, et puis après on ira plus loin. Prions, Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs au travers de ce message court que je vais apporter ce matin. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors, je pense que si vous avez entendu les cinq premières prédications, vous avez compris que quand Jésus était sur terre, le Père vivait en lui. Hein? Vous vous rappelez, on a vu ça. Alors, si tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde, ça veut dire que qui vit en nous? Le Père vit en nous. Alors, bien sûr, c'est écrit le Saint-Esprit vient en nous. C'est bien sûr, c'est écrit Jésus-Christ vient en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On n'est pas des gens qui croyons qu'il y a trois dieux ou quatre dieux. Ou je sais pas. Non, on est monothéiste. On croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste de trois façons différentes. Et en ce moment, il vit en nous. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il vit que en nous, il vit partout. Mais particulièrement en nous pour pouvoir agir. Alors nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'important, c'est que Jésus se manifeste, c'est clairement écrit, dans notre chair, dans notre corps. Alors on lit dans 1 Corinthiens 6, 19, alors je lis toujours dans cette version avec, dont je vous ai fait la pub, je ne gagne rien dessus, hein. Le Nouveau Testament avec Psaume et Proverbe, traduction en français de la Bible King James. Alors vous pouvez la trouver sur Amazon, c'est pas compliqué. Donc, on lit 2 Corinthiens 4, 11. C'est pas une lecture facile, la lecture de cette Bible, mais c'est très très intéressant. C'est très intéressant, surtout pour ceux qui aiment étudier. 2 Corinthiens 4, 11. Car nous qui vivons, nous qui sommes encore sur cette terre, nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus puisse être aussi rendue manifeste dans notre chair mortelle. La vie de Jésus doit être rendue manifeste dans notre corps mortel. Alors, Paul écrivait ça en pleine période de persécution. Assez rapidement, l'Église de Jésus-Christ a été persécutée. Les Romains mettaient les chrétiens à mort, c'est historique. Nier ça, c'est faire du négationnisme. Et si ces gens sont morts parce qu'ils ne voulaient pas renier Jésus-Christ, c'est parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Et ceux qui ne l'avaient pas vu avaient vu des apôtres agir comme Jésus-Christ. Nier l'existence de Jésus, c'est faire du négationnisme et c'est très grave. C'est très grave. C'est pas intelligent en tout cas. De nos jours, énormément de chrétiens sont mis à mort. Chaque jour. Par des musulmans fanatiques. Je dis bien des musulmans fanatiques. Aujourd'hui, le peuple chrétien est le peuple le plus persécuté de la planète. J'ai vu dans l'Express, comme pas un journal, c'est pas gala, hein, je veux dire, c'est pas Voici, l'Express, c'est quand même un journal sérieux, non, c'est pas un journal sérieux, l'Express, c'est quand même. 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde en 2019. 260 millions de chrétiens persécutés, c'est pas les Suédois hein, qui persécutent les chrétiens. Ou alors des Suédois qui ont été radicalisés. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette période de persécution. C'est pourquoi Paul écrivait, nous sommes toujours livrés à la mort à cause de Jésus. Mais c'est pas ce que je veux retenir ce matin, je vous prêcherai peut-être une autre fois sur ces choses-là, et vous expliquer ces choses-là. Mais ce que je veux retenir, c'est que Paul croyait, et moi aussi je crois, que Jésus-Christ est rendu manifeste dans notre chair, dans notre corps, dans notre chair mortelle. Jésus-Christ se manifeste, il est manifesté, il est manifeste dans notre corps. Un vrai chrétien ne cherche pas à éviter les souffrances qui lui sont imposées dans le monde. On va le lire. C'est imposé. 1 Pierre 5,9. 1 Pierre 5,9, la note que j'ai mise là ce matin. 1 Pierre 5,9, c'est écrit. Résistez donc au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On doit résister à l'ennemi, mais pas en le massacrant aussi, voilà, mais avec les choses de la foi, avec Christ en nous. Mais ces souffrances-là, elles sont imposées à tous nos frères dans le monde. Parce que c'est au milieu des souffrances, c'est au milieu des rejets, des trahisons, des persécutions, des diffamations et même de la mise à mort en martyr que Christ se manifeste le plus fortement par le comportement des véritables chrétiens. Mais bien sûr, Christ ne se manifeste pas par notre corps, seulement lors des moments de souffrance, heureusement quand même, hein. Il se manifeste aussi en aimant les autres, même nos ennemis, au travers de l'amour que nous le laissons manifester au travers de nous. Il vit en nous signifie tout ça. Ce n'est pas juste une petite phrase poétique, Christ est en moi, alléluia, les choses sont graves. Et ça signifie encore beaucoup d'autres choses. Christ en vous se manifeste au travers de votre corps lorsque vous imposez par exemple vos mains sur les malades. Jésus a dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16. Christ se manifeste au travers de votre corps. Une force sort de vous, comme il y avait une force qui sortait de Jésus lorsque il touchait des malades ou lorsque des malades le touchaient avec foi. Il se manifeste au travers de votre corps quand vous donnez à manger aux pauvres. Il y a des gens qui me disent, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de pauvres. Je dis, mais Dieu vous a créé afin que vous donniez aux pauvres. Il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais il faut leur donner, il faut les aider. Ça s'appelle l'amour. Quand vous aidez une personne d'une manière ou d'une autre. Alors là, dernièrement, j'ai mis des photos de Nicolas qui a encore mis un puits, un forage avec une pompe. Bientôt, il va faire construire un château d'eau. Il va venir là, le 10 février, il sera là. Et on va lui remettre de l'argent encore pour qu'il puisse construire ce château d'eau. Heureusement qu'il y a des gens intelligents qui donnent. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est juste, quand ils voient ça, ils marquent « Amen, Amen, Amen ». Et je regarde après sur le relevé de compte de PayPal, pas un rond. Hein. Enfin si, quelques-uns donnent. Mais quand vous donnez, c'est Christ qui donne au travers de vous. Ne l'empêchez pas de le faire. N'empêchez pas Jésus-Christ qui vit en vous de bénir les pauvres. Jésus-Christ n'a pas d'autre main que les vôtres pour agir, parce que c'est vous, c'est en vous qu'il vit aujourd'hui. Alors vous allez sur mon site révélationbible.fr, vous voyez tout en haut faire un don, et bien vous faites un don. Voilà, parce que c'est utile. Vous avez les photos, vous avez les résultats. Vous avez le nom des villes où ça a été fait, vous pouvez aller voir vous-même, vous pouvez téléphoner à la mairie pour demander si c'est vrai. On n'est pas des escrocs. Puis dites pas, oh mais j'ai pas assez de sous, je peux pas. 10 balles par mois, c'est pas impossible. Hein? 10 euros par mois. Laissez Christ en vous agir. Il ne suffit pas de dire « Alléluia, Jésus-Christ vient en moi, c'est merveilleux, Alléluia, je lève les mains vers le trône élevé du Seigneur. » Ça, c'est de la gnognotte religieuse qui ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est laisser Christ agir au travers de vous. Aimer les gens, bénir les gens, donner aux pauvres. Hein? Jésus se manifeste quand vous mettez la main au portefeuille pour faire un don. Oui, Jésus se manifeste au travers de vous, mais si vous l'en empêchez, si vous gardez vos mains dans les poches, vous ne voulez pas donner. Eh bien, vous ne donnez pas. Christ ne peut pas donner par vous. Il ne peut rien faire au travers de vous. C'est vous. Il se manifeste au travers de votre chair quand vous souriez au lieu de faire la gueule. C'est vrai. C'est vrai. Jésus-Christ se manifeste au travers de votre chair. Les religieux mettent des milliers et des millions d'euros pour construire des temples. Dieu n'a pas de temple, il n'a que nos corps. Nos corps c'est son temple. Notre chair, c'est son temple. Il ne veut pas habiter dans leur temple. On va lire à Actes chapitre 7, verset 48-51. Actes, qu'est-ce que je dis 7, verset 48. Il dit, quoi qu'il en soit, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits avec des mains. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel est le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Vous, ô cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères ont fait. Vous faites pareil. Alors vous voyez, vous êtes le temple de Dieu. C'est là que Dieu habite, en vous. Pas dans Notre-Dame de Paris, très beau monument, mais pas dans le Vatican, très beau monument aussi, que j'ai visité 3 fois. Ni à la Mecque, que je n'ai pas visité. Ni dans les temples mormons, j'en ai visité, c'est très beau. Ni dans les temples protestants, que j'aime beaucoup, c'est très beau. Non, mais il n'habite pas là-dedans. Il a choisi de vivre en vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les temples, il est partout. Mais il n'habite pas là. Il habite en vous et en moi. Alors pourquoi tous ces temples? Bon, ben, c'est un peu... Ces temples, c'est de l'exagération. Parce qu'en réalité... on a besoin d'un local pour se réunir, il n'y a pas besoin que ça soit un truc qui coûte des millions et des millions et des millions, une maison, ça suffit. Hein. Par exemple, nous, nous vivons ici, dans cette magnifique maison que Dieu nous a donnée, mais nous y vivons. Et puis, nous nous en servons aussi pour prier, pour louer Dieu, pour chanter, pour prendre la Sainte Cène. C'est comme ça que faisaient les premiers chrétiens, c'est tout. Puis quand ils allaient au temple, c'était au temple des Juifs, au temple de Jérusalem. Mais c'était pas leur temple, c'était le temple. Voilà. C'est bien d'avoir une maison où il fait chaud l'hiver, et puis où il fait frais l'été. Hein. Charles, il va venir nous mettre la clim bientôt pour l'été, parce qu'il fait chaud ici l'été. Hein. Surtout avec ces grandes baies vitrées que nous avons là. C'est bien d'avoir un local pour se réunir, pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, pas besoin de mettre des millions là-dedans. Parce que Dieu n'habite pas là-dedans. Se réunir par l'Esprit pour agir de la part de Dieu, bénissant les uns les autres, bénissant les autres, pas seulement ceux qui sont là. Alors, il n'y a pas de contradiction dans les Saintes Écritures comme les incrédules pensent. Dans 2 Chroniques 7, 12, voilà ce que Dieu dit, on va dire, 2 Chroniques 7, 12. Oui, c'est ça, 2 Chroniques 7, 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir les sacrifices. » Donc le temple. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai mon pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà ce que Dieu dit à Salomon. Alors, les gens disent, oui, mais alors après, il dit, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Est-ce que c'est une contradiction? Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Camélia, elle avait une petite phrase, elle disait « Est-ce que vous avez compris ?» T'as compris ? Comment elle disait ça ? T'as compris que...
Le tout n'est pas d'avoir compris.
Le tout n'est pas d'avoir compris, mais de laisser croire qu'on a compris. Si j'avais compris, tu n'avais pas compris, à présent nous ne serions pas pris, t'as compris, non, ben tant pis. Ça, c'est une petite tirade que Camélia disait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? C'est ça qui est important. À l'époque de Salomon, Dieu choisit un lieu... On l'a lu, c'est écrit, mais on ne fait pas attention. Un lieu comme place pour lui offrir des sacrifices. Et il explique pourquoi. Il dit, c'est parce que vous êtes un peuple méchant, pécheur, mauvais, et je ferme les cieux, je vous bénis plus, c'est terminé, mais venez et priez, invoquez mon nom, et puis je vous exaucerai des cieux. Il ne dit pas, je vous exaucerai depuis le temple. Il n'y habite pas là-dedans. C'est juste pour faire des sacrifices, le temple. Vous comprenez ça? Je vous exaucerai des cieux. Voilà ce qu'il dit. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile du temple, de ce fameux temple, s'est déchiré du haut en bas. Dans le temple, il y avait un endroit qui s'appelait le lieu très saint, où il y avait seulement le souverain sacrificateur qui rentrait une fois pour... Le pardon, ça c'était toute une cérémonie. Alors, ce voile-là, qui est un rideau sacrément épais d'ailleurs, il s'est déchiré du haut en bas, signe que c'est Dieu qui a déchiré ça. Pourquoi? On trouve ça dans Matthieu 27, 51. Le voile empêchait le commun des mortels d'accéder au lieu très saint du temple. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y aller. Et dans Actes 7, au verset 49-50, on l'a lu, Dieu dit, « Le ciel est mon trône, la terre, c'est que mon marchepied. » Maintenant, plus besoin de temple, plus besoin de ce temple, où se faisaient des sacrifices à cause du péché. Maintenant, Jésus a été le sacrifice parfait, Il n'y a plus à faire de sacrifice, donc il n'y a plus besoin de temple. Quelques années après la mort de Jésus, le temple a disparu. Maintenant, on sait ce qui s'y trouve. Maintenant, Jésus a été le sacrifice parfait. Dieu a déchiré le voile du temple du haut en bas pour nous faire savoir que nous avons tous accès à sa présence sainte. Nous pouvons aller à lui par la prière, par la méditation et être exaucés sans passer par un prêtre, un souverain sacrificateur, un je ne sais quoi, un bonhomme. Non, on a directement accès à Dieu personnellement. Et où est-ce que nous allons pour rencontrer Dieu? Où est-ce qu'on va pour le trouver? Est-ce qu'on est obligé d'aller chez Michel Jonton? Non! Où il est? À Rome? Non! Où est-ce qu'il faut aller? Ben là où il est. Où? En toi-même, mon frère, en toi-même, ma sœur. Pour un chrétien, s'il nous arrive de commettre un péché, et ça nous arrive tous, la Bible dit « Entrez en vous-même ». Et reconnaissez vos fautes. Voilà ce que le fils prodigue a fait. C'était qu'il est entré en lui-même. Il a dit, voilà, j'ai péché contre mon père. Je retournerai. Il est rentré en lui-même. C'est en vous-même que vous devez rentrer. Parce que Dieu habite là. Nous humilier dans sa présence qui est en vous. Et il vous pardonnera et il vous purifiera de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Vous voyez comme tout est clair, logique, réconfortant, exaltant quand on lit les Écritures. Plus besoin de temple. Chez les Mormons, si vous voulez aller au temple, parce qu'ils n'ont pas des réunions comme les autres chrétiens évangéliques qui vont tous les dimanches à l'église. Non, eux, ils ont des locaux, là, comme ça, où ils se réunissent. Mais pour aller au temple, il faut avoir l'autorisation d'un évêque, plus l'autorisation du responsable de l'église où vous êtes. Et vous passez par un interrogatoire, il y a 15 questions, je connais ces questions, je les ai, et puis vous devez signer, et les deux autres signent aussi, et vous avez l'autorisation d'entrer dans le temple pour des cérémonies, comme par exemple le baptême pour les morts et des choses comme ça. Mais où est-ce que c'est dans le Nouveau Testament, tout ce fatras de tradition, d'image? Plus besoin de temple! C'est vous le temple du Saint-Esprit. Il réside en vous. Depuis que vous croyez que le sacrifice de Jésus vous permet d'entrer dans la présence de votre Père, le voile était déchiré, plus de temple, plus de lieu très saint, plus de voile de séparation, plus de sacrifice pour les péchés. Jésus a tout accompli pour votre salut complet et parfait et vous avez accès à lui directement d'une façon personnelle. Quelqu'un m'écrivait cette semaine, si j'avais l'argent, je vous enverrais un billet pour que vous veniez prier pour moi. Mais il n'y a pas besoin que j'aille prier pour quelqu'un qui se trouve à quelques kilomètres de chez vous. Il n'y a pas besoin. Ma sœur, Dieu vit en toi. Il est en toi. Moi, je viens prier depuis chez moi, mais Christ en toi. Je vais t'expliquer. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Il n'y a pas besoin d'une autre personne que vous. Vous êtes le temple, vous êtes habité par Dieu. Il n'y a pas besoin de prier pour que Dieu lui-même vienne à vous. Il y a des cantiques qui disent « Viens Seigneur Jésus, remplis-nous ». Mais c'est quoi ça? C'est de l'incrédulité. On ne dit pas à Jésus de venir, il est là. Pourquoi demander à Jésus de venir? C'est de la gnognotte religieuse, de pacotille à même pas de balle. J'en veux pas, moi, tout ça. Je veux ce que la Bible dit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est en moi. J'ai pas besoin de lui demander de venir. Viens, Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous êtes un vrai chrétien, c'est ce que vous savez. La Bible vous l'ayant appris, et vous le croyez, et vous vivez sa présence. Vous vivez sa présence. Pas besoin non plus de sentir sa présence. Il ne sent pas mauvais, il ne sent pas bon. Moi, quand il y a quelqu'un, par exemple, je rentre dans la maison, j'arrive, je ne sens pas la présence de mon épouse. Pourtant, elle est là. Hein. Simplement, je dis, Michou, ah, elle est à la cuisine. Moi, je vais dire, à la cuisine. Ou, ah, elle est dans la chambre. Bon. Dieu est en vous, vous n'êtes pas obligé de sentir qu'il est là, d'avoir une sensation. Ça, c'est encore de la gnognotte religieuse à deux balles qui sert à rien du tout. À rien. On n'a pas besoin de sentir sa présence. Il est là. Si vous croyez qu'il est là, ça vous donne de l'assurance. Si seulement vous pouviez croire qu'il est là, en vous. Si vous ne le croyez pas, ben ça n'empêche pas d'être en vous quand même. Parce qu'il ne peut pas ne pas être en vous. Il est partout. Mais seulement si vous ne savez pas qu'il est en vous, ben vous n'en tirez aucun bénéfice de sa présence. Parce qu'il faut avoir la foi, basée sur les Écritures, la foi qu'il est en vous pour que des choses se produisent. Si vous ne savez pas et si vous ne croyez pas qu'il est en vous, ben c'est comme s'il n'était pas en vous, bien qu'il est en vous. Il est partout, 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 partout. Il n'y a pas un endroit dans tout l'univers où Dieu n'est pas. C'est dommage pour vous si vous ne croyez pas ça. Dommage, 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 dommage. Alors le Seigneur a choisi de naître dans un corps, dans le corps d'un bébé, dans une crèche. Et maintenant, si vous l'invitez dans votre vie, eh bien, il vit en vous, il habite en vous. Aussi bien qu'il habitait dans ce petit corps, d'où l'expression « je vais crécher chez vous ». Ce n'est pas que ça venait de là, hein. En fait, on pourrait dire « Dieu crèche en moi ». Je suis sa crèche. Ou alors, il y a d'autres termes. Il tabernacle en moi, parce que le tabernacle, c'était la tente qui se déplaçait dans le désert avec moi. Je suis un tabernacle mobile. Je suis un temple mobile. Dieu habite en moi. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je crois ça. Et vous êtes heureux si vous le croyez, parce que vous ne vous comportez plus comme un mendiant qui attend. Vous comportez comme un gagnant, sachant que Christ est en vous. Qu'est-ce que peut me faire un bonhomme? Qu'est-ce que peut me faire une bonne femme? Dieu est avec moi, plus il est en moi. Vous croyez qu'il est en vous? Et vous croyez que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, parce que ça aussi c'est clair. Quand vous allumez la lumière, les ténèbres s'en vont. Hein ? Ben c'est pareil, Jésus est la lumière. S'il habite en vous, tout ce qui est mal, tout ce qui est ténèbres, ça dégage. Dieu en vous met dehors la maladie, par exemple. La maladie vous squatte. Elle vous squatte. Le mot squatter, c'est un mot anglais. Ça veut dire que la maladie n'a aucun droit légal de vivre en vous. Un squatteur, le mot squat c'est anglais, un squatteur ça signifie accapareur. Un squatteur c'est quelqu'un qui monopolise. Un squatteur c'est une personne qui occupe illégalement un logement vacant. Ça c'est le dictionnaire qui nous le dit. Un squatteur, c'est quelqu'un qui occupe illégalement un logement vacant. Or, votre corps n'est pas un logement vacant puisque Dieu vit en vous. Vous comprenez ça? La maladie n'a pas le droit légal d'occuper votre corps. Virez-la au nom de Jésus! Quelqu'un m'a dit un jour, augmente le loyer, il faudra quand? Seigneur, virez cette maladie, elle n'a pas le droit légal de vivre en vous. Elle n'a pas le droit légal de vivre en vous. C'est un squatteur. Est-ce que vous me comprenez? Tu es le tabernacle de Dieu. On va lire dans psaume 91-10. Psaume 91-10. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera et aucune maladie n'approchera de ta demeure. Ah! Pourquoi le mal et la maladie ne peuvent pas, n'ont pas le droit légal même de t'approcher? Mais parce que Dieu est en toi. Il est celui qui te guérit si jamais tu laisses rentrer cette maladie ou pour une raison ou pour une autre, cette maladie se trouve une faille pour rentrer, Dieu est celui qui te guérit parce que Jésus s'est déjà chargé de tes infirmités et de tes maladies. Et ça, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 8, verset 17. Tu n'as pas à porter ce que Jésus a déjà porté. Alors vire cette maladie au nom de Jésus. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Vous avez vu quand on parle avec les gens, quand les gens arrivent, ils disent « Ah bonjour, ça va, oui, ça va, moi c'est un peu difficile à trouver, on est passé par Charmaine d'Arfafur, on a tourné à gauche, on a monté derrière, puis par mon moment, on est arrivé par le haut. Ah bon, vous avez dû passer par le bas, parce que par le haut c'est difficile. Quand vous arrivez depuis le bas, il y a la pharmacie dans votre dos, la gare est devant, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer par le bois. Puis alors ça prend à peu près un quart d'heure, puis après de quoi on parle? Les gens nous parlent de leur maladie. C'est pas vrai? Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Et s'il essaie de s'introduire en toi, tu as le droit légal divin et le pouvoir de Dieu qui vit en toi pour la chasser. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas agir en conséquence de ce que tu as appris ce matin ou est-ce que tu vas te laisser avoir encore longtemps? Prions. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné d'être clair pour que mes frères et sœurs comprennent et qu'ils puissent ainsi être vainqueurs par le nom de Jésus qui vit en eux. Au nom de Jésus-Christ maintenant, que chacun exerce sa foi et reçoive la guérison dont il a besoin, reçoive la délivrance dont il a besoin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute personne qui est harcelée par quelqu'un se trouve libérée de cette personne. Je dresse un mur entre la personne qui les harcèle et eux. Parce que Jésus en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, soyez délivrés de cette personne qui vous fait des problèmes, qui vous fait des ennuis, qui vous harcèle, qui vous trompe, qui vous trahit. Au nom de Jésus-Christ, soyez dans la paix du Seigneur. Jésus-Christ est en vous. Ça fait toute la différence. Merci Seigneur de nous avoir éclairés ce matin. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Au revoir.